France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Les voix du Seigneur, je ne sais pas, mais celles de l'Académie suédoise pour le prix Nobel de littérature sont impénétrables, ça se vérifie chaque année. À 13h pile, nous saurons qui est le lauréat 2025 qui succédera à l'autrice sud-coréenne Han Kang. Nous serons en direct de Stockholm pour le découvrir avec vous.
Mais en attendant, Marie, les pronostics vont encore bon train. Quels sont les auteurs et les autrices qui sont les favoris cette année? Quels enseignements peut-on tirer des précédents prix Nobel de littérature? Quelles œuvres ont permis de faire rayonner ce prix Nobel, on en parle avec nos invités.
Et nos invités, les voici. Clément Ribes, éditeur, cofondateur de la maison d'édition Les Corps Conducteurs. Bonjour.
Bonjour.
Sylvie Tanet, romancière, critique littéraire, aux Un Rock et sur la télévision, la radio suisse normande, romande.
Bonjour.
Bonjour. Et bienvenue à tous les deux. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et du jeu des pronostics, chaque année, chaque hebdomadaire, chaque quotidien, chaque agence de presse se fait l'écho des possibles lauréats à quelques heures de l'annonce. Et je me demandais, est-ce que ça a toujours été le cas? Depuis quand finalement le Nobel de littérature est devenu une actualité aussi courue, aussi populaire, j'ai envie de dire, Sylvie Tanet?
Bonne question. Je sais pas. Moi, je l'ai toujours vu. Je suis vieille pourtant, hein, mais non, mais c'est, je crois que ça a toujours été le cas. Ça a toujours passionné les foules, il me semble.
Ouais. Clément Ribes.
Et moi, je dirais qu'il y a eu quand même une accélération de cette thématique dans la presse depuis que on peut consulter sur Internet les paris qui sont faits par beaucoup de gens dans le monde. Et c'est vrai que cette possibilité de consultation a, je pense, excité un petit peu aussi les débats et la volonté de jouer au jeu des pronostics. Ouais.
Mais qu'est-ce qui vous plaît, vous, finalement, dans ce moment du Nobel de littérature? C'est vrai que c'est un moment un peu particulier parce que le monde entier se met à parler de littérature, ou en tout cas d'un auteur ou d'une autrice. Est-ce que pour vous, personnellement, c'est un moment important, Sylvie?
C'est un moment important parce que on ne sait jamais, ça peut donner... Enfin, moi, j'espère toujours que nous, Français, nous allons découvrir quelqu'un. Voilà. Ça peut donner d'un coup une place à un auteur ou une autrice d'un autre continent qu'on ne connaît pas encore. Et parfois, qu'on connaît dans les milieux anglo-saxons, mais Dieu sait pourquoi il n'a pas été traduit en français, ou très peu. Et là, d'un coup, ça lui donne une lumière. Donc ça, voilà, pour
qui,
moi,
par exemple, vous avez découvert comme ça dans les précédents Nobel?
Alors là, c'est de nouveau une colle où on me posait que des questions.
On va continuer comme ça pendant toute
l'émission. Non, je me rappelle plus, mais oui, peut-être quand j'étais plus jeune, par exemple. Mais là, j'ai pas un nom comme ça que j'aurais découvert, mais ou que j'aurais relu, par exemple. Oui, oui, je me souviens. Oui, il y a quelques auteurs comme ça. Oui.
Oui.
Pour la découverte, moi, dans les lauréats récents, je dirais Abdulrazak Gurnah, qui a été, je consulte mes fiches, lauréat en 2021, et qui, c'est vrai, était un auteur connu dans le monde anglo-saxon, qui avait été traduit en français, mais je crois n'était plus traduit. Et je pense, moi, ça m'a permis de le découvrir, et je pense que le public français a très bien aussi réagi à la publication de ses livres après le prix Nobel. Donc c'est vrai que c'est important pour mettre le focus comme ça sur une œuvre un peu méconnue.
Ça avait été aussi important, ce prix Nobel-là, parce que c'était un auteur tanzanien, mais qui écrivait en anglais. Il y avait eu, d'ailleurs, suite à sa nomination, une polémique, peut-être pas, mais en tout cas des interrogations sur la langue d'écriture de ce Nobel-là.
Absolument, c'est vrai que l'Académie suédoise avait privilégié son profil, donc de quelqu'un qui écrit en anglais au détriment peut-être de langue africaine, d'écrivains de langue africaine qui auraient pu être récompensés. C'est vrai que ça pose aussi la question de l'accès de l'Académie suédoise au texte, par quelle médiation ça passe. C'est vrai que en fait, on sait très bien que si un auteur n'est pas traduit en anglais, n'est pas traduit en suédois, ce sont autant de points faibles pour lui, alors qu'il aurait peut-être, il ou elle aurait peut-être une œuvre qui mériterait d'avoir le Nobel. Donc ça pose, c'est vrai, la question de comment les textes vont transiter et atterrir jusqu'à la considération de l'Académie suédoise.
Depuis sa création en 1901, hein, le Nobel de littérature ambitionne, et c'est très précis, de récompenser, je cite, un auteur ayant rendu service à l'humanité par une œuvre littéraire qui a fait la preuve d'un puissant idéal. Est-ce que vous diriez que cet objectif, il est toujours d'actualité, il est respecté, il est évident quand on apprend le lauréat ou la lauréate?
Il n'est pas toujours évident, puisque de temps en temps on est très surpris par qui a le Nobel, mais je crois que c'est toujours dans la tête du jury, parce que souvent on dit que le prix Nobel est effectivement un prix politique, qu'on tient pas seulement compte de la valeur littéraire d'une œuvre, mais c'est évident puisque c'est dès le départ dans les statuts, c'est le prix Nobel, donc c'est d'abord le Nobel de la paix, puis ensuite voilà les autres prix Nobel. Donc il y a cette idée d'une œuvre qui aide à la paix dans le monde, etc. Donc, mais après, il y a un petit peu des ratés.
Vous avez quel raté en tête, par exemple ?
Ah, quel raté ? Non, raté, le mot est dur, je suis d'accord, mais je ne sais pas, quand il avait été donné à Peter Handke, je me souviens qu'il y avait eu énormément de critiques compte tenu du passé, des prises de position politique, etc. Donc voilà, ce n'est pas non plus...
Clément Rib ?
Oui, alors je réfléchissais à ce que vous disiez sur la définition du Nobel et la question du puissant idéal. Puissant idéal, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. C'est pas forcément d'ailleurs un idéal toujours politique. Alors c'est vrai que depuis traditionnellement, je dirais le prix Nobel a cette image de prix engagé, prix politique, comme vous le disiez, Sylvie. Seulement, j'ai l'impression que ces dernières années, ou en tout cas cette dernière décennie, la question du politique au prix Nobel a un peu migré. C'est-à-dire que c'est plus des textes qui sont politiques forcément frontalement, qui sont en prise avec une actualité brûlante ou avec des sujets ou avec des guerres ou des choses comme ça, mais des textes dans lesquels le politique passe par le prisme de l'intime. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les derniers lauréats et lauréates du prix.
Le politique, il passe aussi peut-être par la zone géographique récompensée. On en parlera selon le lauréat qui va être annoncé à 13h. Mais on le sait, parfois, ce n'est pas tant dans leur texte ou dans leur phrase, mais bien de là où ils parlent.
Oui, c'est me souviens quand Orhan Pamuk avait eu, auteur turc, donc qui avait reconnu le génocide arménien et qui a eu le prix Nobel de littérature. Mais après, c'est aussi une grande œuvre. Faut quand même expliquer que les jurys ne récompensent pas n'importe qui au prétexte qu'il serait de tel ou tel pays où il aurait dit ça ou ça, quand même.
C'est vrai que cette façon de fonctionner date de... Alors, Orhan Pamuk, c'était dans les années 2005, quelque chose comme ça, je pense qu'il
a eu... Il me semble, avant 2010,
Avant 2010, et je pense qu'en fait, le Nobel fait de moins en moins ce choix de récompenser des auteurs qui seraient possiblement dans l'actualité immédiate pour des raisons de conflit.
C'est pour éviter d'avoir des polémiques.
Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas forcément d'auteurs russes ou ukrainiens ou israéliens ou de langue arabe dans les années qui arrivent. Mais ça, c'est... Un pronostic personnel qui, ça se trouve, va se contredire dans quelques temps.
Des auteurs de langue arabe, je crois qu'il y en a eu un sur 125 ans. Voilà. Donc,
c'est 2006, Orhan Pamuk.
Alors, on disait qu'on est à moins d'une heure maintenant, 50 minutes de l'annonce du lauréat. Il est de coutume que l'Académie suédoise contacte en fait l'intéressé une demi-heure avant de dévoiler un nom. Et c'est parfois l'éditeur qui reçoit l'appel. C'est arrivé à plusieurs reprises à Jean Materne, directeur éditorial chez Christian Bourgois, notamment pour le Nobel de Jean-Marie Gustave Le Clésio.
Et je l'ai eu justement au téléphone ce matin, on l'écoute.
En fait, ce qui se passe, c'est que les gens à l'Académie suédoise, en fait, ils cherchent à avoir les coordonnées d'une personne proche ou du lauréat potentiel quelques semaines avant. Ils font ça très discrètement, ils mènent leur enquête. Ils notent des numéros de téléphone pour le jour J, donc toujours début octobre, pouvoir appeler la personne, parce que le but est quand même de prévenir le lauréat une demi-heure à peu près avant l'annonce officielle qui a toujours donc lieu à 13h. Quand cette porte blanche de l'Académie suédoise ouvre et le secrétaire général de l'Académie suédoise annonce en suédois, donc on essaye au milieu d'une phrase en suédois de repérer le nom du lauréat quand on est devant son écran. Il m'est arrivé donc pour par exemple Le Clésio, je travaillais à l'époque chez Gallimard et j'avais été à Stockholm quelques années plus tôt pour le prix Nobel de Orhan Pamuk, dont je m'occupais quand je coordonnais la collection du monde entier, qui était la collection de littérature étrangère chez Gallimard. Donc j'avais assisté aux festivités à Stockholm et j'avais rencontré une personne de l'Académie suédoise qui avait noté mon téléphone. Et le jour où le Nobel a été attribué à Le Clésio, j'étais la personne qu'ils ont appelée pour dire est-ce que vous pourrez joindre Le Clésio. Et voilà, donc j'ai demandé à l'attaché de presse Isabelle Sougier de Gallimard de courir parce qu'il se trouvait que Le Clésio a habitait vraiment pas très loin. Et elle est allée toquer à la porte pour dire à Jean-Marie Gustave Loclésio, décroche ton téléphone. Voilà, ça s'est passé comme ça.
Et c'est un travail au long cours, Jean Materne, d'avoir parmi ses auteurs un prix Nobel. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça quand vous avez su que ça allait être Loclésio cette année-là?
Non, rien du tout. Je vous avoue. Et alors les années où ça me concernait encore plus directement, parce que c'était des auteurs dont je m'occupais, par exemple donc Orhan Pamuk, ou quelques années plus tard Herta Müller, que j'avais fait venir chez Gallimard, j'avais absolument aucune prémonition vraiment sur l'attribution du prix Nobel. Et pour Orhan Pamuk, j'étais dans un restaurant italien quand c'est tombé. J'avais totalement oublié ce jour-là que c'était. Et j'étais au milieu d'un brouhaha invraisemblable quand votre collègue Ilana Mouriouceff de France Inter m'appelle pour que je commente en direct l'attribution du prix Nobel à Orhan Pamuk. Et j'étais au milieu d'un restaurant italien et on entendait « Due Margherita !» Voilà, au fond, pendant la retransmission de mes commentaires sur Orhan Pamuk. En revanche, j'avais une prémonition pour Jon Foss, l'auteur norvégien qu'il a eu il y a 2 ans. Voilà, là, j'avais un vraiment pressentiment. Mais,
Et pour cette édition de 2025, je me permets de vous demander, puisqu'on le saura dans quelques minutes, est-ce que vous avez également une prémonition?
Je prie pour que ce soit un auteur formidable argentin qui est dans le catalogue Christian Bourgois depuis très longtemps, qui s'appelle César Aira, qui est le maître du roman court, avec une originalité folle en fait dans ses romans vraiment toujours très courts, autour de 80-100 pages à chaque fois. Et ça fait très longtemps qu'il est dans les favoris, parmi les favoris. Et voilà, j'espère que ça sera peut-être son année. L'Amérique latine n'a pas été honorée depuis Vargas Llosa, donc depuis quelques années maintenant. Donc peut-être l'Amérique latine et César Aira, pourquoi pas?
Eh bien, réponse dans quelques minutes. Merci.
Exactement.
Beaucoup, Jean Materne. Merci.
Merci à vous. Au revoir.
Clément Ribes, qu'est-ce que vous pensez de ce pronostic? César Aira, je vous ai vu réagir.
J'en serais extrêmement heureux, puisque c'est aussi un auteur dont je me suis occupé dans la même maison chez Christian Bourgois Éditeur. Je pense que ça n'arrivera peut-être pas, malheureusement. J'aimerais bien. Je pense que c'est un geste un peu trop punk, sachant que César Aira a la réputation de... Il écrit des romans très très courts, parfois un peu fous, difficiles à situer, et surtout il y a quelque chose de plus concret dans la question de l'Amérique du Sud par rapport à l'Académie suédoise, c'est qu'en fait, il y a parmi les membres de l'Académie suédoise, il n'y a pas de personne spécialiste de littérature latino-américaine. Ce qui, comme on le disait tout à l'heure, en fait, remet en cause certaines chances de certains auteurs à pouvoir être considérés de manière pleine. Donc j'espère que bientôt il y aura des changements chez les membres et que la littérature latino-américaine qui est si importante se verra récompensée. Mais je croise quand même les doigts pour César Aira.
Sylvie Danet.
Oui, effectivement, moi ça me ferait plaisir parce que en tant que Français, il me semble qu'on attend toujours que le grand écrivain, ça soit un écrivain qui écrive des pavés. Et en fait, quand l'Académie suédoise récompense soit un poète, soit quelqu'un qui écrit des récits courts, je trouve ça formidable parce qu'il n'y a pas qu'une seule littérature et c'est intéressant s'ils se mettent comme ça à récompenser des auteurs qui écrivent autre chose que des gros romans. Cela dit, pour l'Amérique du Sud, moi, je préférais qui récompense Cristina Rivera Garza, une femme, pour parler de cette mouvance des femmes en Amérique du Sud qui me paraît très intéressante.
Et puis le choix de César Aira, moi, me plairait aussi beaucoup parce que c'est un auteur souvent drôle. Et
ah
que
oui.
Le prix Nobel n'a pas forcément
la récupérer.
Voilà. Moi, j'aime beaucoup les livres drôles et ce serait bien pour le Nobel d'avoir une œuvre un petit peu...
Pour
un peu
fois.
Plus légère.
Alors, on l'a dit, il y a des pronostics, les bookmakers qui s'en donnent à cœur joie avec leur quintet gagnant, les journalistes littéraires aussi. L'autrice chinoise Chan Sui est souvent citée, le hongrois Laszlo Krasznahorkai, le japonais Haruki Murakami sont très présents, mais aussi l'indien Amitav Ghosh, l'australien Gérald Murnan et le roumain Mircea Cărtărescu, puis toujours les souvent cités et jamais couronnés, Thomas Pynchon, Salman Rushdie, Margaret Atwood. Alors ça y est, on va y aller maintenant. Je vais vous demander votre lauréat. Alors attention, le lauréat de cœur, on l'a dit, mais celui qui serait le plus probable, d'abord avec vous Clément Ribes.
Alors mon lauréat de cœur, Jean Materne m'a précédé puisque c'est César Aira,
ouais.
Pour toutes les raisons que je viens de citer. Mon pronostic, alors je me ridiculise pour dans 45 minutes, j'en avais prévu 4, comme ça je me disais au moins je suis sûr.
Plus de chance, ouais.
Alors, je vais juste vous expliquer pourquoi je vais dire ce que je vais dire. Je pense que ça va être un homme européen. Pour la simple et bonne raison que, alors je me joue statisticien un petit peu de pacotille, hein, mais en fait depuis 2018, le jury Nobel a alterné hommes et femmes dans les lauréats. L'an dernier, Han Kang était une femme, donc je pense que c'est un homme. Je pense que ça peut pas être un homme asiatique dans la mesure où Han Kang était coréenne, enfin est coréenne, ça peut pas être non plus un homme états-unien, parce que il y a eu deux lauréats assez récemment, donc ce serait soit pour moi un homme sud-américain ou européen. Et parmi les Européens, les deux qui se détachent le plus sont Laszlo Krasznahorkai, le Hongrois, Mircea Cărtărescu, le Roumain, et deux autres choix possibles, Christian Kracht, Suisse, et Gheorghi Gospodinov, Bulgare. Et j'en ai un dernier que je garde pour la suite.
D'accord.
Alors, je suis pas très bonne au pronostic, mais je rebondis sur ce que dit... on peut faire confiance peut-être au jury. C'est vrai qu'ils alternent depuis 2018, ou je sais pas, un homme, une femme, etc. Et puis quand c'est un non occidental, on prend un occidental. Ben après tout, il y a suffisamment eu d'hommes occidentaux récompensés. Donc cette fois-ci, peut-être de nouveau une fille. Il y en a très peu. Donc de nouveau une fille et de nouveau une non occidentale, ça va pas les tuer. Alors je leur fais confiance. Peut-être
alors qui, par exemple?
Alors j'ai parlé de cette autrice mexicaine, Christine Rivera Garza.
Vous pouvez nous la présenter en quelques mots, parce qu'on la connaît.
C'est quelqu'un, elle a eu le prix Un Roc l'an dernier, donc c'est pour ça que je soutiens un peu cette autrice. Non, c'est pas seulement pour ça. Non, elle a écrit un livre, le dernier livre qui a été traduit en français. Tout n'a pas été traduit. Le dernier livre, c'était à propos d'un féminicide. Sa sœur a été tuée quand elle était jeune et elle a écrit là-dessus. Ce qui me ferait plaisir, c'est pas seulement parce que c'est une femme et que c'est l'Amérique latine, c'est que du coup, ça mettrait en valeur, on a parlé de formes littéraires un petit peu dissidentes, ça mettrait en valeur la non-fiction sud-américaine ou d'Amérique latine, disons, que je trouve extrêmement intéressante, parce que la non-fiction, oui, il y en a aux États-Unis, évidemment, il y en a aussi en France, mais la non-fiction qui est en train de se construire en Amérique latine est extrêmement intéressante, souvent représentée par des femmes, que ce soit au Mexique ou en Argentine. On connaît beaucoup d'autrices qui ont travaillé ces dernières années. Fernanda Melchior, par exemple, aussi au Mexique. On vient de publier un recueil d'articles qu'elle a fait. C'est extrêmement intéressant et c'est différent des autres non-fictions. Donc voilà, ça me ferait très très plaisir si la récompensée, elle. Mais après, dans les pronostics, moi j'ai un peu de mal. Effectivement, tous les noms qu'a cités Clément, ça me va très bien. Enfin, ça me va très bien. C'est assez logique. Oui, c'est assez logique. J'avais pas pensé à l'auteur bulgare qui a été publié cet automne, si je me trompe pas, chez Gallimard. Mais oui, Christian Kracht, ça me ferait plaisir parce que c'est très drôle en plus. Enfin, c'est un auteur suisse germanophone et c'est une littérature qu'on pourra rapprocher peut-être de ce qu'on fait du Renmatt ou Max Frisch avant lui. Donc, ces autres auteurs de Suisse alémanique qui ont une espèce d'humour caustique et son dernier livre, Rotrash, il trimballe sa mère. Enfin, c'est une espèce d'autofiction un peu étrange, que j'aimais beaucoup et qui me fait beaucoup rire.
Alors, je ne sais pas si je vais trahir un secret, Clément Rime, mais je crois que vous suivez avec beaucoup d'attention tous les sites de bookmakers. J'aimerais en parler un petit peu avec vous. Moi, ça me paraît toujours surprenant que des gens parient sur le Nobel de littérature, mais je m'y suis plongée pour préparer cette émission et c'est un monde. Il y a des forums, il y a des centaines de gens qui parlent entre eux, qui parient. Vous faites partie de ce monde-là. Racontez-nous comment ça se passe.
Absolument. C'est pas seulement les sites de bookmakers qui sont finalement la partie la moins intéressante de la chose, mais c'est vrai que je suis sur plusieurs forums internet ou groupes de discussion de fous du prix Nobel, de Nobelopathe, si je sais pas, je vais inventer un mot, qui toute l'année font des débats pour savoir qui devrait ou pourrait ou serait légitime à avoir le prix Nobel suivant. Et généralement à partir d'aujourd'hui, ça recommence pour l'année d'après. Et donc moi ça.
Et donc toute l'année, les gens parlent sur ces forums.
Absolument, et font des débats, des spéculations. Il y avait des techniques aussi pour essayer de deviner quels étaient les auteurs envisagés pour le prix Nobel. Et moi, j'adore ça parce qu'en fait, c'est comme moi, je suis pas par exemple supporter de foot, mais j'ai l'impression d'être dans une discussion de comptoir où on s'énerve avec la mauvaise foi nécessaire pour dire lui, j'avais de la vie, il le mérite pas, etc. Et c'est très très amusant. Et moi, après, en tant qu'éditeur, ça me permet aussi de découvrir des auteurs du monde entier, de langues parfois pas très peu traduites que je ne connais pas, et d'essayer de voir si je peux pas me procurer les textes en anglais, en espagnol, les langues que je lis, et de découvrir comme ça des œuvres importantes dans leur pays, mais qui ne sont pas encore parvenues jusqu'en France.
Mais pourtant, il y a un lieu commun sur ces bookmakers et surtout ce monde autour du Nobel, c'est qu'en fait, dans les 5 premiers, ce n'est jamais celui qui va être finalement lauréat. Je crois qu'il y a un taux très faible. Donc pourquoi on s'y intéresse autant alors que finalement, ça nous renseigne pas beaucoup sur ce qui va se passer,
quoi. Ça dépend des années, parce que dans mon souvenir, quand Yon Fosse l'a eu, Il était dans les 5 premiers depuis longtemps, en fait.
Oui, comme Peter Handke d'ailleurs, voilà, qui traînait dans les listes depuis des années.
Il y a des, disons qu'il y a des récurrences chaque année, et là, d'ailleurs, les gens dont on a parlé sont aussi dans le dans les premières places. Ça permet d'avoir peut-être une petite tendance ou des intérêts. Voilà.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire que les gens qui votent, qui parient avec, chez les bookmakers, en fait, ils parient sur leur poulain. C'est pas
exactement
forcément représentatif.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit dans les premiers rangs des bookmakers, des auteurs qui, à mon sens, voilà, c'est vraiment de la mauvaise foi ou d'un point de vue vraiment personnel, n'auront jamais le prix Nobel et ne le méritent pas.
Par exemple,
Haruki Murakami, par exemple, moi je considère que c'est pas un auteur qui a la stature pour avoir le prix Nobel. Je sais pas ce que vous en pensez.
Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Oui, il est très surcoté. Je sais pas pourquoi le nom revient comme ça.
Mais lui, c'est pareil. Il est là depuis.
Il est là depuis longtemps. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de savoir ces internautes qui parient sur quelles conditions ils sont. On doit pouvoir trouver ça. Et voilà, je sais pas très bien. Mais ça serait intéressant de voir qui parie dans ces sites.
Alors Marie, vous n'êtes pas intéressée aux bookmakers, enfin si aussi évidemment, mais vous êtes très très moderne, vous êtes très très jeune, donc vous avez demandé à ChatGPT.
Oui, d'ailleurs, alors je vérifie en fait depuis quelques jours sur les IA ce qu'ils nous donnent comme pronostic. Alors je lui ai donné un prompt assez simple, je lui ai demandé, là il y a une heure avant d'entrer en studio, de compiler toutes les statistiques et tous les sites de bookmakers et de me sortir les 5 noms qui sortent le plus. Donc je vais vous les dire, il n'y a pas de surprise, je vous préviens tout de suite. On commence avec en 1... Tsan Shui, donc l'autrice chinoise. En 2, Haruki Murakami, donc l'auteur japonais dont on vient de parler. Laszlo Krasznahorkai en 3, c'est le hongrois. Cristina Rivera Garza en 4, la mexicaine, votre choix, Sylvie Tanet. Et en 5, ex aequo, Gérald Murnan et Mircea Cărtărescu. Peut-être juste un mot sur Gérald Murnan qui revient beaucoup. Alors, Clément Ribbe,
l'Australien. Ce serait pour moi la plus belle nouvelle d'aujourd'hui, après César Aira, on va dire. C'est un auteur extraordinaire dont 2 livres ont été publiés en France il y a très longtemps chez POL et chez Buchet Chastel. C'est à mes yeux un des plus grands écrivains vivants. C'est un auteur qui est assez âgé, maintenant qui a 86 ans, et qui a élaboré toute une œuvre qui est fondée sur le fonctionnement de la mémoire et de l'esprit humain. C'est souvent en fait des textes très autobiographiques qui partent d'images obsédantes que l'auteur a, et il part d'une image et il la fait évoluer vers une autre image, et à travers tous ces changements d'image en image, il va se raconter sa vie, raconter son passé. On a l'impression vraiment, quand on le lit, de voir un nuage qui change de forme au fur et à mesure du temps, et c'est vraiment une œuvre capitale.
Mais on dit de lui que c'est un auteur caché, un peu comme Thomas Pynchon d'ailleurs.
Comme beaucoup d'auteurs, j'ai l'impression, qui sont...
Il y a beaucoup d'en retrait, c'est vrai.
Oui, mais lui, je crois qu'il n'est jamais sorti d'Australie et qu'il ne sort même pas, il habite à la campagne, etc. Donc je ne sais pas si le jury Nobel a envie de voter pour quelqu'un qui ne viendra pas, visiblement, à Stockholm. C'est une question à se poser.
Il n'a jamais pris l'avion de sa vie.
Exactement, il ne sort pas. En plus, il est âgé maintenant. Mais c'est vrai que c'est magnifique. C'était Les Plaines qui avait été traduit. Je sais pas, c'est le seul que j'ai lu d'ailleurs.
J'ai commencé à écrire mes propres textes, mes poèmes, des nouvelles. Et j'ai découvert que cela me procurait un sentiment de sécurité, me libérait de ma peur. J'ai trouvé en moi quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Et plus cela grandissait, plus je pouvais écrire ce qui m'était propre. Aujourd'hui, près de 50 ans plus tard, je suis encore assis là pour écrire. Et j'écris toujours à partir de cet endroit secret en moi. Le poète norvégien Olav Hauge a écrit un poème dans lequel il compare l'acte d'écrire à celui d'un enfant qui construit des cabanes dans la forêt, s'y glisse, allume des bougies, s'assoit et se sent en sécurité dans les sombres soirées d'automne. Je pense que c'est une bonne image de la façon dont je vis, moi aussi, l'acte d'écrire.
Voilà, c'était l'auteur et dramaturge norvégien Jon Foss lors de la remise de son prix Nobel de littérature le 7 décembre 2023. Nombreux sont les personnes qui ont été surpris de voir Jon Foss sortir du chapeau, mais pas vous, Clément Ribbe, puisque vous avez été son éditeur et à l'époque vous aviez énormément milité pour qu'il reçoive ce Nobel de littérature. Par quels moyens concrètement? La corruption de jury?
Absolument, j'ai fait livrer des caisses de champagne à Stockholm. Non, je militais à mon échelle tout à fait minime au regard de l'enjeu. Après, moi, je choisis jamais de publier un auteur en croyant que peut-être il aura le prix Nobel un jour. C'est pas une motivation pour moi. Je publie un auteur parce que c'est une œuvre qui me paraît importante. Et celle de Yon Fossé est éminemment importante en tant que dramaturge, mais en tant que romancier aussi. Quand je travaillais aux éditions Bourgois, j'ai publié la Septologie, donc le grand roman de Yon Fossé, qui était en fait pas connu en France pour ses romans, mais vraiment quasi que pour ses pièces de théâtre. Les romans n'étaient plus édités depuis longtemps, et ça me paraissait être un grand manque dans le panorama littéraire européen qu'on puisse pas lire ses romans en France. Et donc c'est pour ça que je l'avais fait. Et donc quand le jour où il a eu le prix Nobel, évidemment, ça a été une très grande émotion pour moi, pour beaucoup de gens qui l'aiment.
Pierre Assouline disait qu'il fallait draguer en permanence l'académie du Nobel. C'est une réalité.
Alors, je pense qu'il y a une question géopolitique aussi derrière. C'est-à-dire qu'il y a évidemment les services culturels de chaque pays essayent de faire du lobby, ce qui est tout à fait normal pour essayer de... ça a des effets d'ailleurs positifs, c'est essayer de faire connaître une œuvre. Alors après, il y a des lobbies plus ou moins forts et plus ou moins, comment dire, appuyés. Notamment en ce moment, on parlait tout à l'heure de Christian Krach. C'est vrai que la Suisse fait beaucoup pour faire connaître Christian Krach et pour le faire connaître en Suède. Voilà.
Pour le faire connaître à l'étranger. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être rappeler comment travaille le jury, parce que c'est pas des gens qui se réunissent fin septembre en se disant tiens, à qui on va le donner cette année. Ça démarre comme les bookmakers, c'est toute l'année. Ils envoient des demandes, je crois. Clément, vous êtes peut-être plus au courant. Ils envoient des demandes dans différentes académies à travers le monde pour qu'on leur fasse remonter des noms, puis ils lisent, ils réfléchissent. Voilà, c'est pas un nom qui sort du chapeau en 5 minutes, quoi.
Je vous interromps juste.
Je vous en prie.
Là, on est jeudi. La semaine prochaine, ils se réunissent pour déjà parler du... Et ils se réunissent chaque semaine.
Pour parler de l'année prochaine.
Pour parler de l'année prochaine, pour préparer.
Quel travail.
Il nous reste quelques secondes avant de finir cette première partie de cette émission spéciale Nobel, mais une question quand même. Quels sont à vos yeux les grands oubliés? Qui aurait dû l'avoir, ce Nobel de littérature, et ne l'a pas eu? Je rappelle qu'il faut être vivant pour avoir un Nobel de littérature.
Les grands oubliés dans l'histoire, vous voulez dire?
Oui, qui vous l'auriez donné?
À leur époque, je pense que Borges le méritait et ne l'a pas eu pour des raisons politiques qui sont peut-être contestables. Nabokov... La grande poète danoise Inger Christensen le méritait aussi. Il y en a vraiment des tas, et Dubravka Ugresic, qui est une autrice que j'ai publiée, croate, qui malheureusement aurait pu l'avoir et l'aurait eu, je pense, mais elle est morte assez jeune et donc elle n'a pas eu le temps.
On a beaucoup parlé de Philip Roth, par exemple. Est-ce que pour vous c'est aussi un oubli du Nobel?
Je suis pas une spécialiste de Philip Roth. Je suis plutôt d'accord sur l'autrice croate que j'aimais beaucoup. Non, c'était l'auteur italien, le Baron Perché, qui l'a pas eu.
Italo Calvino,
oui, qui est un grand manque, il me semble.
En tout cas, merci pour cette première partie d'émission. Vous restez avec nous, Sylvie Tanette, Clément Ribe. On se retrouve à midi...
Dès
midi 50, pour attendre l'annonce du lauréat du prix Nobel de littérature 2025.